qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire.
Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous avez été nombreux à répondre à l'invitation faite par Franck Ferrand pour fêter le 30 millième fan de l'émission sur Facebook. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Cette initiative, pour tout vous dire, nous a surpris par le succès extraordinaire qu'elle a rencontré. Et je vous avoue qu'on était loin d'imaginer un tel flot de réponses. Alors évidemment, ça nous a fait chaud au cœur. Je vous rappelle en deux mots la situation. Il y a trois semaines, alors que nous franchissions le seuil du 30 millième fan de l'émission sur Facebook, j'ai invité nos auditeurs à nous proposer des sujets d'émission. Et j'ai annoncé que le sujet qui nous paraîtrait le plus attrayant, le plus original à nos yeux, serait traité en collaboration avec son auteur. Seulement voilà, les propositions sont arrivées par centaines, je dis bien par centaines. Marion Sauveur, qui s'en est occupée, a passé des journées à gérer tout cela. Et devant la quantité et la qualité des suggestions, j'ai décidé de donner un petit peu plus d'importance à tout ça. Alors, je peux vous annoncer dès aujourd'hui que nous allons puiser largement dans vos propositions pour monter non pas une, mais des dizaines d'émissions qui vont constituer, si vous êtes d'accord, une part essentielle de notre programme de la saison prochaine. Puisque, et je peux vous l'annoncer par ailleurs, à partir de la fin du mois d'août, Au cœur de l'histoire revient à la même heure et avec la même formule. Alors, laissons-nous l'été, si vous voulez, pour organiser tout ça, et sachez que vous serez directement associé à la programmation de cette émission 2014-2015. Un grand, grand merci à tous pour cette très active participation.
Aujourd'hui, c'est un saut de deux siècles en arrière à la découverte du Paris de 1814 que vous nous proposez.
Et oui, en effet, nous allons prendre la mesure des transformations effectuées par Napoléon dans sa capitale. Après quoi, en compagnie de mon invité Alexandre Gady, très salué d'ailleurs par nos auditeurs sur Facebook, nous nous attarderons sur le chantier de l'église de la Madeleine. Une église commencée bien plus tôt puisqu'on célèbre en ce moment le 250e anniversaire de la pose de sa première pierre.
Et puis enfin, tout à l'heure, un peu avant 15h, vous répondrez à la question de Reynald sur l'origine du terme dauphin pour désigner le successeur d'un roi de France.
Eh bien, quel programme, avec joie. Pour le moment, bienvenue dans la capitale impériale de Napoléon Ier.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La grande capitale de son grand empire, Napoléon nourrissait des ambitions très grandes, évidemment. Déjà, 5 mois avant le coup d'État qui allait le porter au pouvoir, il disait « Si j'étais le maître de la France, je voudrais faire de Paris non seulement la plus belle ville qui exista, la plus belle ville qui ait existé, mais encore la plus belle ville qui puisse exister. » Voilà ce qui s'appelle placer la barre très haut et nourrir de vastes ambitions. La capitale, c'est un fait, va considérablement changer pendant le règne de Napoléon. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'on est encore dans une capitale qui est l'héritière directe, même si elle a été modifiée à plusieurs reprises par un certain nombre de rois qui se sont faits urbanistes. C'est une capitale qui reste l'héritière de ce qu'elle avait été au Moyen-Âge, avec tout cet entrelac de rues plus ou moins saines et plus ou moins lumineuse. Il va falloir aérer tout ça, donner une modernité à la ville qu'elle trouvera et qu'elle prendra pleinement beaucoup plus tard sous le Second Empire avec les travaux un peu qui parfois confinent un peu au vandalisme du baron Haussmann. Alors voilà ce qu'écrit Alain Pijard, à propos de ce travail du Premier Empire sur la capitale. Jamais, dit-il, en l'équivalent de deux septennats, un chef d'État n'aura donné à la France un tel essor, une telle puissance, de telles réformes en profondeur, admirées, copiées et encore appliquées pour beaucoup d'entre elles. C'est d'ailleurs la seule fois de son histoire où la France a été une superpuissance. Et Georges Poisson, qui a beaucoup écrit sur les architectures disparues notamment, nous dit dans son ouvrage « Napoléon Ier et Paris », je le cite, « Bien des historiens de Paris ont minimisé l'œuvre de l'empereur dans la capitale, la réduisant à quelques édifices et soulignant que plusieurs d'entre eux n'ont pas été achevés par lui. Ils oublient sur ce dernier point que le fait est commun à la plupart des monuments de Paris. Saint-Sulpice, commencé sous Anne d'Autriche, a été achevé sous Louis XVI seulement. L'opéra mis en chantier par Napoléon III a été inauguré par MacMahon et la Ve République a terminé la maison de la radio, entreprise par la IVe. Il fallait donc rappeler à ceux qui l'ont oublié que nous devons à Napoléon Ier, outre la rue de Rivoli, les deux arcs de triomphe, la colonne Vendôme, la Madeleine, la Bourse, la façade de la Chambre des députés, l'aile Rivoli du Louvre et l'achèvement de la Cour carrée, le pont des Arts et d'Iéna, 12 fontaines, les rues de la Paix et de Castiglione, la place Saint-Sulpice, les catacombes, sans parler des monuments et que les époques suivantes n'ont pas su préserver, mais dire aussi que la ville moderne, telle que nous la voyons vivre avec ses rues à trottoirs, ses quais, ses eaux, son port, ses cimetières, ses marchés, ses abattoirs, ses pompiers, son administration elle-même, sont la création de l'empereur. Et oui, avant de parler urbanisme et architecture, il faut parler administration. C'est la loi du 17 février 1800, à l'époque on disait encore 28 pluviaux en 8, c'est cette loi relative au préfet qui va organiser Paris sur un plan administratif. Et ce qui est très intéressant, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion au moment des récentes élections municipales et ça ne m'a pas valu que des amis comme assez souvent, mais Napoléon avait bien compris que Paris n'était pas une ville comme une autre. Il s'agit bien de la capitale et donc il avait prévu qu'il n'y ait pas de maire pour Paris, pas de conseil municipal. La ville à l'époque est divisée en 12 arrondissements qui d'ailleurs, ne cherchons pas de correspondance, ne correspondent pas du tout aux arrondissements actuels. Il y a un maire par arrondissement. Ce maire est chargé des affaires quotidiennes, des administrés, des habitants, si vous voulez. Et puis, pour gérer la ville elle-même, alors il y a le préfet de la Seine qui, lui, dépend directement du gouvernement parce qu'on est bien dans une capitale, avec toutes les contraintes et toutes les obligations d'une capitale. Alors, ça se discute, bien entendu, mais on a un peu trop tendance à se moquer de cette forme administrative et à critiquer Napoléon, à mon avis, un peu vite sur ce sujet-là. Julien Alès recense dans son itinéraire parisien, hein, qui a été publié à l'époque, en 1804, 56 fontaines publiques, 2 châteaux d'eau, 2 pompes à vapeur, 41 postes de pompiers, 12 prisons, 1095 rues, 15 ruelles, 97 passages, 121 cul-de-sac, 41 cours, 77 places, 31 quais, 18 ponts, 36 barrières, 27 hôpitaux et 29 théâtres. Tous ces chiffres pour vous dire qu'on n'est quand même pas en présence d'une petite bourgade. C'est vrai qu'on est au tournant du 19e siècle, c'est vrai que Paris est encore l'héritière d'une capitale médiévale, mais c'est déjà une très grande ville, bien entendu. Alors, avant de passer aux chantiers eux-mêmes, n'oublions pas une des grandes révolutions de l'urbanisme sous Napoléon, c'est l'invention des numéros de rue. Alors, c'est pas tout à fait une invention, puisque ça avait commencé à voir le jour sous Louis XVI, mais c'est une généralisation des choses. Napoléon, en 1804, décide qu'il faut changer le système. Il demande à Champagny, je le cite, « Je désire que vous me remettiez un rapport sur le nouveau numérotage des maisons de Paris. Désormais, on va numéroter chaque habitation d'une rue, même si elle traverse plusieurs arrondissements, numéro impair à gauche, numéro pair à droite, dans le sens croissant. Pour les rues perpendiculaires ou obliques à la Seine, la numérotation commence au fleuve, hein, commence le plus proche possible de la Seine. Et pour les rues parallèles au fleuve, la numérotation se fera dans le sens du courant, dans le sens de la Seine qui descend. Quant à l'affichage même des numéros, il est normalisé. Pour les rues perpendiculaires à la Seine, les numéros seront peints en noir sur fond ocre. Et pour les rues qui sont parallèles à la Seine, ils seront peints en rouge, également sur fond ocre. Et tout ça sera à la charge de la municipalité, bien entendu. L'entretien, en revanche, de tous ces numéros est à la charge du propriétaire. La réglementation est très stricte, comme vous pouvez le voir, et elle va très vite se généraliser. Napoléon choisit aussi d'établir un code pour les noms de rues, avec un modèle précis des plaques de rue sur champ ocre encadré bleu ciel de 34 sur 24 cm. Tout ça n'existe plus aujourd'hui, mais on se dit que c'était déjà très abouti comme système.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la découverte de Paris sous Napoléon.
Alors Napoléon, lui, habite, d'abord le premier consul Bonaparte, qui va devenir en 1804 l'empereur Napoléon, habite aux Tuileries, vous savez. Il entreprend un grand chantier autour des Tuileries, et notamment au Louvre. Dès le début de l'année 1800, le Conseil des bâtiments civils étudie tout le dégagement du quartier, qu'il faut dire à l'époque est extrêmement encombré, avec notamment la construction de 3 voies parallèles à la Seine. On va y revenir tout à l'heure, c'est fondamental. Le Louvre, à cette époque, est complètement envahi de logements d'artistes, etc. Vous savez que c'était devenu une sorte de cité des artistes et des académies, le Louvre, à la fin de l'Ancien Régime. Et donc, il faut modifier tout ça. Et pour l'anniversaire du coup d'État, donc dès le 18 Brumaire en 9, on dirait nous le 9 novembre 1800, Bonaparte inaugure un nouveau musée, le nouveau musée du Louvre. On a notamment transformé tout ce qui était l'appartement d'été d'Anne d'Autriche. C'est l'architecte Raymond qui s'est occupé de ça et qui en a fait un véritable musée de la statuaire antique, sans abîmer ce qu'il y avait de plus spectaculaire dans les décors de Romanelli et Anguier, notamment tous les grands plafonds à cloisonnement. On installe ici de nombreuses œuvres. Le Louvre a beaucoup de succès d'emblée. Et pour mener l'ensemble des travaux et des aménagements, Napoléon choisit les fameux architectes Percier et Fontaine, dont le nom va se confondre bientôt avec celui du style Empire, Charles Percier et Pierre-François Fontaine, qui vont travailler directement avec l'empereur, le futur empereur, et qui vont notamment percer la fameuse rue de Rivoli, qu'on devait appeler la voie impériale en 1804-1805, la plus belle peut-être qui ait jamais existé, prévoyait le Conseil des bâtiments civils. Elle permettait d'établir entre le Louvre et l'hôtel de ville une communication propice au décor des cortèges, ça ne s'invente pas, cette communication ayant toujours été regardée comme le complément naturel des projets du Louvre et comme un lieu qui doit unir tous les monuments situés à l'ouest de la capitale à tous ceux qui vont en embellir la partie opposée avec, et ça c'est assez nouveau et assez intéressant dans cette volonté urbanistique du Premier Empire, de réconcilier en quelque sorte rive droite et rive gauche de Paris, qui avaient été depuis la création même de la ville, qui avaient été toujours extrêmement séparées, avec des affectations, avec un urbanisme, avec des décors très différents. Et à partir de là, on va essayer de créer une sorte d'unité générale. Alors la construction de la rue de Rivoli elle-même se fait en plusieurs étapes. Un premier tronçon de la place de la Concorde à la rue du Louvre va de 1806 et ne sera terminé qu'en 1835. La seconde de la rue du Louvre à la rue Malheur ne sera achevée que sous le Second Empire. Napoléon essaie d'attirer le plus possible de monde dans cette rue de Rivoli. Voilà ce qu'il écrit au ministre Regnault de Saint-Jean d'Angély, en décembre 1810. Je vous prie de rédiger un projet pour exempter du paiement des impositions pendant 20 ans les personnes qui construiraient des maisons rue de Rivoli pour les indemniser du surcroît de dépenses résultant de l'obligation de se soumettre à un plan d'arcade extérieur et par là de concourir à l'embellissement de la ville. Et oui, ces arcades de la rue de Rivoli sont certes très belles à voir, mais elles constituent une véritable contrainte pour les constructeurs, pour les architectes et bien sûr pour les propriétaires. Et donc Napoléon envisage de les dédommager d'une certaine manière. Ce n'est pas tout, bien entendu. Napoléon veut faire de sa capitale une grande cité administrative, politique, militaire, économique. Voilà ce qu'il écrit au ministre Champagny le 12 décembre 1806. Il se trouve en Pologne à l'époque, mais vous savez, ça ne l'empêche pas de continuer à faire des réglementations, etc. Napoléon est partout. Les intérêts sont avant tout économiques, écrit-il, d'où la création d'une bourse en France à Paris. Mon intention est de faire construire une bourse qui réponde à la grandeur de la capitale et au grand nombre d'affaires qui doivent s'y faire un jour. Proposez-moi un local convenable, il faut qu'il soit vaste afin d'avoir des promenades autour. Je voudrais un emplacement isolé. Cette bourse, elle doit être une sorte d'emblème de la puissance économique de la nouvelle France impériale. Alors l'emplacement, ça va être le couvent des filles Saint-Thomas, qui va de la rue Saint-Augustin à la rue Feydeau, enfin l'actuelle. Les travaux commencent en 1807. Napoléon charge l'architecte Brongniart de ses travaux, d'où le nom qu'on a laissé à ce palais, le palais Brongniart. Brongniart va mourir prématurément, d'ailleurs bien avant la fin des travaux. Et c'est Fontaine qui nous dit dans son journal, je le cite, « Monsieur Brongniart, architecte chargé de construire l'édifice de la Bourse, vient de mourir. Il laisse à terminer l'un des plus beaux et des plus importants du règne présent. La disposition générale du plan que l'on exécute est bonne, mais les détails n'ont pas été suffisamment étudiés. » dédiée. Ça, c'est une façon, vous savez, tous les architectes font ça, quand vous avez des travaux à finir, vous savez comment ça se passe, on vous dit, ah oui, c'était très bien ce qu'ils vous ont fait là, mais c'est pas, il faut tout reprendre, hein. Vous savez, on va être obligé de vous faire de nouveaux devis.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous continuons à découvrir avec vous, Franck Ferrand, les transformations de Paris effectuées sous Napoléon.
Alors là, je vous parle de la rue de Rivoli, du Louvre, du palais Brongniart. Il faudrait vous parler des ponts, notamment du pont d'Austerlitz, hein, qui va relier le faubourg Saint-Antoine et l'Arsenal au Jardin des Plantes. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelle le pont du Jardin des Plantes. Il est dû à l'ingénieur Becket Beaupré. Il a été ouvert à la circulation le 1er janvier 1806, ce pont, avec un coût quand même, évidemment. C'était un pont à péage, 5 centimes par personne, 5 centimes par cheval. Ce qui veut dire que les recettes quotidiennes étaient quand même de 4 à 500 francs. Alors, le pont tel que nous le voyons aujourd'hui, il a été refait sous le Second Empire, au tout début du Second Empire, en 1854, et il a été encore largement, enfin très élargi, en 1885 pour devenir l'espèce de pont monumental que vous connaissez, mais il était un petit peu plus modeste du temps du Premier Empire. Tout ça, ce sont des travaux, il y en aurait bien d'autres à citer. Je fais mon marché au milieu de toutes ces possibilités. Tout ça, ce sont des travaux, j'ai envie de dire, utilitaire, mais il y a aussi de purs embellissements. Il y a tout un travail monumental. Et nous allons y venir dans un instant. Nous allons poser la question à Alexandre Gady, car il y a une véritable volonté de créer un style et un urbanisme particulier sous le Premier Empire. Je pense à la colonne Vendôme, bien sûr, emblème des emblèmes. Hein. C'est le décret de mars 1806 qui prévoit cette construction. Notre ministre de la guerre mettra à la disposition de notre ministre de l'intérieur, dit l'empereur, pour être employé à la construction de la colonne d'Austerlitz, c'était son nom, la quantité de 150 000 livres pesant de bronze en pièces de canon prises tant sur les Russes que sur les Autrichiens. Ces pièces seront choisies parmi les moins propres au service tout de même. On veut bien donner les canons d'Austerlitz pour bâtir une colonne, mais il faudrait peut-être pas déposséder l'armée pour autant. Alors, cette colonne Vendôme, c'est un des ornements du Paris impérial. Il y en a deux autres très célèbres, évidemment, le petit et le grand arc, les arcs de triomphe. C'est à peu près au même moment, en février 1806, que sont décidés ces deux arcs de triomphe. L'emplacement du plus grand, ce sera la place de l'Étoile, dessinée seulement, je dirais même esquissée par le nôtre, puisque à l'époque, les grandes avenues qui s'y sont développées n'existent pas encore. Un projet absolument pharaonique. Napoléon écrit en 1808 à Créteil : « J'ai prélevé 25% sur les coupes de bois appartenant aux communes et j'en ai affecté le produit à l'Arc de Triomphe et à d'autres travaux. J'espère qu'il ne s'éloignera pas de la somme que j'ai affectée pour ces travaux. » La somme en question, c'est plus de 9 millions de francs or de l'époque. C'est une somme absolument gigantesque, ce qui montre l'importance que lui conférait Napoléon. Pour lui, l'Arc de Triomphe devait être un peu le parachèvement de tous ces grands travaux. Vous savez qu'il ne sera inauguré que beaucoup plus tard, en juillet 1836, l'Arc de Triomphe, et encore en catimini, à 7h du matin, par Thiers et deux fonctionnaires qui sont arrivés là et qui ont fait leur petite inauguration quasiment en privé. Il y a un autre arc, c'est celui du Carrousel, bien entendu. Ça m'amènerait normalement à vous parler de la Réunion du Louvre et des Tuileries, enfin des travaux très importants dans ce quartier. Et tout près de là, un peu toujours dans ce même centre de Paris, la construction, ou plutôt l'achèvement, le développement de l'église de la Madeleine, qui, nous allons le voir tout à l'heure, avait été commencée sous Louis XV et qui va prendre son essor sous Napoléon, qui, de Pologne, annonce le 2 décembre 1806 que l'église va devenir un temple maçonnique dédié à la gloire de sa grande armée, avec pour inscription « L'empereur Napoléon aux soldats de la grande armée ». Vous voyez que c'est assez bizarre au départ comme vocation. Alors il y a un grand concours qui est lancé pour terminer le chantier qui était vraiment resté très inachevé. Une centaine de projets arrivent, et voilà ce que dit Napoléon le 29 mai 1807. Après avoir attentivement examiné les différents plans, je n'ai pas été un moment en doute. Celui de Monsieur Vignon est le seul qui remplisse mon intention. C'est un temple que j'avais demandé, non une église, et c'est un temple que me propose Monsieur Vignon. Comment, pourquoi ce temple a-t-il été bâti de cette façon à cette époque? C'est ce que nous allons voir dans un instant en compagnie d'Alexandre Gady.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du 250e anniversaire de la première pierre de la Madeleine, avec votre invité Alexandre Gadi, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Tout un programme sur lequel nous aurons à la fin de cette émission l'occasion de revenir, et je tiens beaucoup à ce qu'Alexandre Gadi nous raconte ce qu'il fait à la tête de cette très utile association. Un mot pour conclure sur les immenses travaux de Napoléon à Paris, et vous aurez bien compris que je n'ai évoqué que quelques éléments parmi bien d'assez nombreux. Voilà ce que nous dit Georges Poisson sur le rapport entre l'empereur et sa capitale. La personnalité de l'empereur, écrit-il, est telle que l'on ne peut étudier ses réalisations sans essayer de saisir les motifs qui les ont inspirés. On verra un Napoléon bien différent des champs de bataille où il jugeait jouer gagné, un Napoléon réfléchi, prudent, s'entourant de conseils, acceptant de modifier sa décision première sur les avis d'un technicien, mais sachant aussi se tenir à son sentiment lorsqu'il lui semblait inspiré par le bon sens et suivant de très près les chantiers qu'il visitait souvent. Il y avait une âme d'urbaniste dans cet empereur, Alexandre Gadi.
Absolument, et une passion, comme vous l'avez bien dit, du bâtiment qui est pour lui une des expressions du pouvoir. Hein, et en ce sens, Napoléon est véritablement, comme il l'a toujours été, très en miroir avec l'Antiquité. D'ailleurs, dans ses travaux, il y a les deux aspects qui sont fascinants, parce que les empereurs antiques faisaient les deux choses, c'est-à-dire à la fois le monumental, la gloire, ce qu'on appellerait la politique de gloire. Louis XIV l'avait beaucoup pratiqué également en son temps.
Les arcs de triomphe, les colonnades,
voilà,
etc.
Voilà, tout ce qu'on pourrait juger inutile si on était des esprits simples qui croient que l'inutile n'est pas utile. Et puis par ailleurs, tout ce que j'appellerais les travaux d'édilité, alors qui sont moins visibles forcément, les égouts, l'arrivée de l'eau, le canal de l'Ourcq. C'est le premier qui va tenter, Haussmann réussira avec Belgrand, à amener enfin un peu d'eau à Paris, parce que c'est une ville sans eau malgré la Seine. Les marchés. Il nous en reste qu'un qui a été tellement abîmé, qui est le marché Saint-Sulpice, hein, ce très joli marché néoclassique avec ses arcades qui font le tour aujourd'hui d'un centre commercial peut-être moins sympathique. Et puis des fontaines, vous l'avez rappelé, la plus célèbre, on passe devant, on l'oublie, c'est la fontaine du Châtelet. Elle est au centre de Paris, hein, la fontaine de la Victoire, dont la statue d'origine aujourd'hui est au musée Carnavalet. Hein, c'est une copie qui est au sommet. Et puis un monument moi, que j'aime beaucoup parce qu'il a disparu complètement à cause des communards qui l'ont détruit. Mais c'était quelque chose de peut-être le plus proche de l'antique, les greniers d'abondance. Alors c'était un gigantesque entrepôt en cas de famine pour que les Parisiens puissent survenir à un événement digne de l'Antiquité, c'est-à-dire une espèce de siège ou des conditions climatiques terribles. Donc on avait entreposé dans ces greniers d'abondance dont le nom dit tout et qui se trouveraient aujourd'hui le long du bassin de l'Arsenal. Il n'en reste rigoureusement pas un caillou, pas une petite pierre, mais on a des photographies au moment de l'incendie de 1871, et c'est un bâtiment qui donnait à l'architecture de Napoléon une espèce de puissance fonctionnelle assez incroyable.
Ah, c'est très intéressant, je ne connaissais pas cet aspect, ça me donne envie d'aller y voir de plus près. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est le côté un peu visionnaire de Napoléon. J'ai là, j'avais sous les yeux à l'instant, une remarque qu'il faisait à propos des plans qui lui ont été fournis, notamment ceux de Vignon, justement. Que pouvait-on faire dans le genre des églises, qui fut dans le cas de lutter avec Sainte-Geneviève, même avec Notre-Dame et surtout avec Saint-Pierre de Rome? Entre parenthèses, c'est bien une nouvelle Rome hein, qu'il veut bâtir, là c'est incontestable. Le projet de Monsieur Vignon réunit à beaucoup d'avantages. Celui de s'accorder beaucoup mieux avec le palais du corps législatif et de ne pas écraser les Tuileries. Ce qui veut dire que, moi j'ai toujours vécu dans l'idée qu'on avait fait la façade du palais Bourbon pour s'accorder avec la Madeleine. Mais chronologiquement, c'est bien l'inverse qui a eu lieu en vérité.
C'est juste parce que la façade de Poyet, architecte qui est traverser la Révolution dans des conditions compliquées et qui devient architecte du corps législatif. C'est une sorte de masque qui est posé sur le vieux palais Bourbon. D'ailleurs, quand on est dans l'édifice aujourd'hui, on voit très bien que cette façade est une façade aveugle. En réalité, il y a une ou deux portes seulement qui fonctionnent. Et ça a été fait en une seule campagne. C'est très rapidement, très spectaculairement, si j'ose dire. Tandis que dans l'affaire de la Madeleine, qui est située à l'autre extrémité petit axe de la Concorde, alors là, cafouillage généralisé depuis Louis XV.
C'est ça.
Et une grande difficulté.
On n'y arrive pas à construire cette église. Alors, on est en train de célébrer en ce moment le 250e anniversaire de la première pierre, hein, de la pose de la première pierre de l'église de la Madeleine. Ce qui veut donc dire que, et là ça nous ramène bien en amont de Napoléon, 50 ans plus tôt déjà, en 1764, donc sous le règne de Louis XV, il est question de bâtir ici une église d'un genre nouveau, d'un style nouveau.
Et Louis XV se déplace pour poser la première pierre lui-même, comme il l'avait fait pour Sainte-Geneviève. Et la même année, 64. Ce qui est très important, peut-être, du coup, pour nous, en termes de politique royale au milieu du XVIIIe siècle. Louis XV a réalisé trop tard qu'il avait négligé Paris trop longtemps. Et Madame de Pompadour a beaucoup insisté pour qu'il reprenne la main dans Paris, si j'ose dire, du point de vue de l'architecture. Donc il a lancé des chantiers que j'appellerais des chantiers identitaires. La place Louis XV, justement, qui nous occupe, la place de la Concorde, oui. L'école militaire, la restauration de la colonnade du Louvre, qui était complètement masquée par des maisons anciennes, Sainte-Geneviève, évidemment.
Là, l'empreinte de Madame de Pompadour et de son frère, le marquis de Marigny,
très
est très
importante,
grande, bien
très
sûr.
Oui. Et puis, le dernier chantier qu'on oublie, parce qu'il a raté, à la différence de Sainte-Geneviève, qui a été finie in extremis en 1789, c'est la Madeleine. Et là, il faut se souvenir d'une chose très importante, qui est que la monarchie, au moment où elle est le plus attaquée par les philosophes, qui attaquent l'Église et le trône, cherche un peu à se ressourcer. Donc, Sainte-Geneviève, ça nous ramène aux origines chrétiennes, Clovis,
médiéval.
Patronne de Paris, mais la Madeleine, qui est venue mourir, si j'ose dire, sur le territoire national, à la Sainte-Baume, là, ça nous ramène aux origines de la France chrétienne à travers un personnage directement relié au Christ. Et donc, comme par hasard, ces deux chantiers-là, c'est une église qui existe déjà, c'est une église de village, dans la ville L'Évêque, dans notre actuel boulevard.
Je dirais un mot de ce que c'est
Malzerbe.
Que la ville L'Évêque, hein, c'est un des foyers de la périphérie de Paris, en
voilà,
fait.
Voilà, un des grands faubourgs quand on sort de Paris par la rue Saint-Honoré, hein, notre huitième actuel pour aller un peu vite. Et donc cette double dédicace, hein, elle renvoie au grand débat qui agite la société aristocratique et la monarchie, dont François Furet parle si bien dans son beau livre « Penser la Révolution », qui est une espèce de justification par l'histoire, parce que ça y est déjà, la mise en cause est très forte, hein, de la part des philosophes. Donc Louis XV se déplace, lui qui ne vient jamais à Paris, qui a horreur de Paris, se déplace deux fois, en avril pour la Madeleine et en septembre pour Sainte-Geneviève.
Alors le grand architecte de l'affaire, c'est Quentin d'Ivry. Quel est son style? Il faut peut-être dire un mot de ça.
Alors, si j'osais une comparaison, peut-être c'est un peu audacieux, mais Quentin d'Ivry, c'est comme Vien par rapport à David. Il aurait dû être le grand rénovateur de l'architecture néoclassique comme l'a été David et Vien pour la peinture, mais comme Vien, il est en dessous de celui qui va lui passer devant, qui est Soufflot, bien sûr. Donc, c'est un homme qui a des mérites énormes. Il est l'architecte du Duc d'Orléans. Il a construit un des plus grands ensembles monastiques d'Europe encore aujourd'hui debout, même s'il a été très restauré après la Première Guerre mondiale, qui est l'abbaye Saint-Vaast d'Arras. Il a construit l'abbaye à Paris de Pantemont, qui est aujourd'hui un temple protestant dans le 7e, qui est un très bel édifice. Et il réfléchit, lui, comme Soufflot, à la question de la colonne, la question du portique, la question de la rénovation de l'architecture religieuse par le choix d'un retour à l'Antiquité. Mais voilà, il a quand même un talent beaucoup plus mêlé, si j'ose dire, par rapport à Soufflot. Et en permanence, tout le monde va faire, c'est très cruel pour lui, va faire le parallèle, évidemment. Il vient après, c'est toujours un peu en dessous. Quand on voit les gravures de sa façade qui sont connues, parce qu'elle a été gravée tout de suite, en réalité en 1765, cette espèce de collage, il y a un portique comme Soufflot, mais il y a des tours comme dans l'architecture italienne, le dôme est positionné de telle manière qu'il occupe l'espace de manière moins monumentale que Soufflot. Bref, c'est évidemment un projet qui est plus difficile.
Et puis, lui-même meurt assez tôt, au tout début du règne de Louis XVI, en 1777. Et là, on ne sait pas trop qui va prendre la suite. Ça cafouille pas mal jusqu'à la Révolution, somme toute.
Et à la différence de Soufflot, il faut se souvenir que quand Soufflot meurt en 1780, Louis XVI donne l'ordre express de finir l'édifice tel qu'il l'avait prévu, ce qui est un geste extraordinaire de Louis XVI, alors que arrive à Contant ce qui arrive à tous les architectes qui meurent en chantier, on en prend un de ses élèves, Abel Couture.
Il a trouvé qu'il y a d'autres choses à faire.
Et qui, voilà, trouve que naturellement, son projet à lui pourrait être éventuellement meilleur que celui de son maître. Et donc, Couture fait des travaux qui retardent le chantier en essayant d'améliorer le travail. Et quand survient la Révolution, un morceau de façade et quelques murs sortent de terre.
Alors il y a cette idée, après la période révolutionnaire évidemment, où tout ça reste en plan, il y a cette idée de Napoléon qui n'est pas de construire une église. Hein, ça, il faut bien insister, j'ai parlé tout à l'heure de ce temple maçonnique à la gloire des armées de l'Empire. C'est assez inouï quand même, on est là en 1806. Hein.
Alors, ça, moi je personnellement j'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que au fond le vrai pouvoir de Napoléon, il l'assume, c'est quand même la force brute. Je souscrirais assez volontiers à tout ce que vous avez dit, mais rappelons quand même que Napoléon, c'est d'abord un homme qui s'est imposé par la force brute, la force militaire. Et donc pour lui, il y a au fond une espèce d'équilibre assez naturel. D'un côté de la Seine, il y a le palais Bourbon avec ce qu'il appelle les bavards, hein, mettez des députés dans une pièce et il n'en sortira que du bavardage. Et puis en face, le temple des soldats morts. On est dans les années qui sont passionnées par le culte d'Ossian, le barde qui revient du fond des âges, ramener les héros de la
presque
nation.
Presque déjà des tensions romantiques.
Il
y a
quelque chose de très pré-romantique, de très tourmenté. Et puis, pensez à la Valhalla en Allemagne, le temple des grands soldats et des grands intellectuels allemands morts dans cette construction de la nation allemande au bord du Danube, à Regensburg. Donc là, il y a cette idée, mais avant même Klenz et la Valhalla, de cette idée de rendre hommage aux morts qui fondent le pouvoir, ces compagnons qui ont disparu mais qui sont toujours présents et dont on trouve les noms dans les nouvelles rues, boulevard Morland, qui sait que Morland est un colonel tué à Austerlitz, etc. Tout ce monde-là militaire qui encore aujourd'hui survit dans les boulevards des maréchaux qu'on récite peut-être quelquefois sans se souvenir bien du rôle de chacun dans chaque grande bataille. Mais en tout cas, Napoléon vit avec ces gens, il n'oublie pas tout ce qu'il leur doit. Souvenons-nous de Désaix qui est tué à Friedland à Marengo, et qui a sa statue avec Fontaine dans la place Dauphine par exemple.
Alors qu'il avait été volontairement oublié par Louis XVIII sur les inscriptions de l'Arc de Triomphe. Ça a été rattrapé plus tard.
La Fontaine, en revanche, elle est partie, elle est rentrée à Rion, dans la ville natale.
Alors, ce temple obéit assez au canon de l'Antiquité, du reste. C'est pas tout à fait la grâce d'un temple grec, tout de même. C'est un peu lourd, quand même.
C'est lourd, on est plus proche du temple romain, puisqu'il est sur podium avec les escaliers d'accès seulement sur les petits côtés.
Très en hauteur, comme les temples de Jupiter, c'est ça.
Très en hauteur, et là, on voit cet éternel retour de chez tous ces gens qui étaient nourris d'une culture classique très forte de ces temples. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que ce temple, quand on va décider d'en faire une église, là on va se trouver devant une contradiction, qui est la contradiction du néoclassicisme qui prétend faire des églises chrétiennes dans des temples païens.
On en fait une église au moment de la Restauration, en fait.
Mais déjà à la fin du règne de Napoléon, quand il sait que tout est fini après la campagne de Russie, il dit, bon écoutez, ça suffit, il faut rendre les églises aux curés, ce sont eux qui sont capables de garder les temples. Et il pense même à un moment, c'est la première occurrence, en 1813, à un temple à la gloire de celui qu'il appelle maintenant son oncle, c'est-à-dire Louis XVI et Marie-Antoinette, les deux martyrs, puisqu'il a épousé
l'oncle
de sa femme. Et donc, au fond, assez curieusement, Napoléon est le père de la chapelle expiatoire, sauf que la chapelle expiatoire, elle sera construite réellement dans le cimetière où étaient les suppliciés.
Cimetière de la Madeleine. Justement.
Absolument, le cimetière du quartier.
C'est une église qui ne correspond pas du tout au canon habituel d'une église, qui est très sombre, il faut le dire. Ça pose un problème, quand même, évidemment.
Alors, là, je me séparerai peut-être de votre enthousiasme pour le goût de Napoléon. Je crois que Vignon était malencontreusement un assez mauvais architecte. Je ne sais pas ce qui a décidé absolument Napoléon à ce choix. On ne peut rien citer d'autre de Vignon. C'est pas vraiment un architecte qui a laissé une œuvre très importante. Mais le pauvre, on lui a demandé de faire un temple romain. Il a fait un temple romain. Quand ça devient une église, c'est un autre architecte qui va être obligé de faire la transformation. C'est UV. Et là, comment faire? Par exemple, la lumière. Il n'y a pas de fenêtre dans un temple. Alors, il faut éclairer par le haut. Donc, on se trouve maintenant avec un éclairage zénithal, mais qui est forcément un peu plus sombre. Comment on met un clocher dans un temple? Il n'y a pas de clocher. Donc c'est une église qui n'a pas les habits d'une église. C'est un pari architectural assez stupéfiant.
Et le paradoxe veut que cette église étant située dans le quartier du pouvoir, de la richesse, etc., au cœur, à l'épicentre du Paris important, si je puis dire, ça devienne la paroisse des grands de ce monde. C'est ça qui est étrange, avec beaucoup d'obsèques solennelles, avec de grands mariages pour les plus grandes familles, etc. L'histoire de la Madeleine est en contradiction avec son architecture, d'une certaine manière, on peut dire ça.
En même temps, une position urbaine fantastique, avec cette grande rue royale qui l'amène au pied de l'obélisque, et une paroisse qui a été une des grandes images des paroisses bourgeoises très représentatives de l'Ouest, comme Saint-Augustin, comme la Trinité, et qui sont aujourd'hui souvent des paroisses vides parce que quartier de bureaux, quartier de grands magasins, et il y a un décalage aussi assez fascinant entre ces églises telles qu'elles ont incarné le catholicisme à la fin du XIXe siècle et aujourd'hui.
Alors on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, Alexandre Gady. Je ne veux pas vous laisser repartir sans que vous nous parliez du paysage et du patrimoine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de la Madeleine, dont on célèbre en ce moment le 250e anniversaire de la construction, avec votre invité Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France.
Eh oui, qu'ils ne se font pas que des amis, évidemment, en menant un certain nombre de combats, à mon avis très nécessaires, Alexandre Gady. Je parlais tout à l'heure de la rue de Rivoli, qui est l'une des grandes créations urbaines de Napoléon à Paris. Dans cette rue de Rivoli, il y avait la Samaritaine. Et vous venez de mener un vrai bras de fer, vous, sur ce site de la Samaritaine.
Oui, on a été amené, c'est gentil d'en parler parce que c'est un combat difficile, on a été amené à faire des recours en justice contre les permis de construire de l'extension de la Samaritaine sur la rue de Rivoli elle-même, qui était précédemment une extension qui s'était faite à l'intérieur des immeubles qui sont des immeubles juste avant Haussmann, 1852-1853. Et donc en fait, les recours avaient pour objet d'empêcher la destruction complète de l'îlot sur la rue de Rivoli, ça fait à peu près...
Ça devait faire table rase là, c'est ça?
Voilà, et ça l'a malheureusement en partie fait pendant la procédure judiciaire, et aujourd'hui nous avons gagné. Le 13 mai, le tribunal de Paris a annulé le permis et a reconnu la validité de notre combat, mais évidemment avec la perte des deux tiers de ce que nous voulions sauver. C'est pas du tout un combat, là il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites dans
la
presse.
Sur internet,
oui. C'est pas du tout un combat contre l'architecture contemporaine, ça n'aurait pas de sens. Mon association n'est pas contre l'architecture urbaine, l'architecture urbaine a sa place et ça n'a pas de sens d'être contre. En revanche, il y a évidemment des endroits plus spécifiques, et là il y avait un endroit qui avait une très forte valeur patrimoniale et surtout qui est protégé, parce que le problème de ces grandes destructions qui sont autorisées lorsque ce sont des groupes très importants commercialement, financièrement ou des gens puissants, c'est qu'on vient rompre quand même un contrat d'égalité, c'est que normalement personne n'a le droit de démolir quatre immeubles entiers de la rue de Rivoli pour un projet privé.
Ça ne concerne pas seulement Paris, hein. Grand nombre de projets dans de grandes villes comme ça, mm-hmm. où l'on a l'impression que les lois ne sont pas pour tout le monde d'une certaine manière.
On les adapte au prétexte que naturellement c'est forcément un chef-d'œuvre qui va pousser, ça va changer la face du monde économiquement, on va recruter des milliers de gens dans une période difficile de chômage. Tout ça, des arguments qui sont séduisants, mais évidemment qui sont souvent un tout petit peu biaisés, parce que dans le monde des affaires, il arrive aussi qu'on fasse des affaires, enfin sans vouloir polémiquer.
Non, bien sûr. Quels sont à Paris les grands dangers qui menacent la capitale d'après vous en ce moment?
Alors, je dirais qu'il y a un problème qu'on pourrait prendre en historien et qu'on ramènerait sur la période contemporaine. Paris est une ville qui souffre depuis très longtemps, ça date pas de la Révolution, c'est sans doute même encore avant, d'un problème d'hypercentralité. C'est-à-dire que les élites parisiennes ont du mal à s'éloigner de l'île de la Cité. Haussmann a reconstruit Paris sur le centre de Paris, et depuis 1860, nous sommes enfermés dans la même circonscription administrative, qui sont ces fameux 20 arrondissements dans notre périphérie.
Entourés maintenant par un périphérique, comme s'il y avait une muraille.
Voilà,
en fait.
Exactement. Oui. Et donc, progressivement, on a densifié cet espace intérieur, sans se rendre compte qu'on est arrivé aujourd'hui à en faire la ville la plus dense d'Europe et peut-être une des villes aujourd'hui les plus denses du monde. Alors pas beaucoup habitées, parce que par rapport à Mexico, à Tokyo, nous ne sommes que 2 200 000 habitants. 200 000 habitants
mais
de plus en 10 ans.
Très petite superficie.
Mais sur une superficie miniature. Et donc aujourd'hui, le danger, c'est que tout ce qui est espace libre, c'est-à-dire la voirie, avec le projet assez baroque qu'on a vu surgir de lotir le centre de l'avenue Foch pendant la campagne électorale municipale, ou alors ce combat que nous menons actuellement, construire dans les jardins. Il n'y a pas assez de jardins à Paris, mais on construit dans les jardins, et c'est bien sûr le combat très difficile que nous menons contre l'extension, à notre avis scandaleuse, de Roland-Garros, qui doit rester à Paris.
On en a beaucoup parlé jusqu'à hier.
Voilà, on en a parlé pour les joueurs, bravo, mais maintenant revenons au temps long du patrimoine. On veut construire un stade de 4500 places dans le jardin des serres botaniques, dit jardin d'Auteuil, qui est un des plus beaux endroits de Paris.
Ah oui,
il faut que ceux qui ne connaîtraient pas y courent, parce que c'est un endroit d'une poésie et qui est gratuit et tout le monde peut y aller. Et donc il nous paraît qu'installer un grand équipement sportif qui va engendrer un mouvement fantastique de population 15 jours par an autour de lui, dans un jardin, est une erreur historique majeure. Voilà.
Votre association s'appelle la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, la S2PEF. J'invite nos auditeurs à s'y inscrire, évidemment. Vous travaillez sur la défiguration, hein, tout simplement, de nos villages, avec notamment ces espèces de lotissements qu'on voit fleurir partout et qui bousillent littéralement le paysage. Quand on a connu des jolis vallons, des jolis prés à la sortie des villages, et que on revient 3, 4, 5 ans plus tard et qu'on voit là-dedans des espèces de petites maisons toutes plus laides les unes que les autres, c'est quand même un grand travail, ça. Il y a le problème de tout le patrimoine religieux aussi, hein, des églises qui sont de moins en moins entretenues par certaines communes qui n'ont pas les moyens, disent-elles en tout cas. Il y a un gros travail sur tout ça.
Oui, c'est une association qui a été créée en 1901, d'où ce nom à rallonge qui est si compliqué médiatiquement.
Elle a été créée dès 1901.
Oui, c'est la première et la plus ancienne des associations de défense du patrimoine. J'y tiens beaucoup,
amusant, ça,
évidemment,
oui.
Parce que c'est très bouleversant de penser qu'elle a été là avant les ministères de la culture, de l'écologie, et qu'on s'occupe à l'aspect de paysage, de lois de protection depuis 1901. Alors elle est reconnue d'utilité publique, donc elle couvre tout le territoire national, bien sûr, elle est représentative, et comme vous le dites, elle a plusieurs fers au feu. Il y a le monumental qu'on peut défendre que par objet, et puis il y a la question de l'urbanisme, la question des lotissements, qui est un modèle architectural difficile, un modèle aussi économique complètement devenu non viable avec le problème de l'énergie aujourd'hui.
Justement, concernant l'énergie, le problème des éoliennes aussi.
Alors ça, c'est notre grand combat, et c'est un combat qu'on a été les premiers il y a 14 ans à repérer, si vous voulez. On a compris qu'avec l'éolien, allait se produire une dénaturation très profonde du paysage pour des intérêts économiques puissants, mais pour un intérêt écologique qui, contrairement à ce que pensent les gens, est très faible.
Oui.
C'est une fausse énergie propre pour nous, et donc nous sommes amenés souvent à être avec d'autres associations locales en partenariat pour des bras de fer juridiques. Vous savez que la France est le pays où il y a le plus de résistance à l'éolien. Certains disent que c'est une mauvaise exception française. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne chose.
Oui, il y a un bon sens français. Oui. Merci beaucoup, Alexandre Gadi, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. C'est facile à trouver sur Internet. SPPEF. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage avec Anne Aliment chez Somogy. Le jardin des Tuileries d'André Le Nôtre. Et oui, évidemment, c'était l'année Le Nôtre, l'année dernière, puisque le livre est sorti en 2013. Merci, Alexandre.
Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Reynald sur l'origine du terme dauphin pour désigner le successeur d'un roi de France.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Reynald. Il nous l'a envoyé via le site internet d'Europe 1. Il voudrait savoir d'où vient le terme dauphin pour désigner le successeur d'un roi de France.
Alors, avant de désigner le successeur d'un roi de France, le terme dauphin faisait référence au comte d'Albon et de Viennois. Vous savez, on disait le dauphin de Viennois. Au Moyen-Âge, il faut savoir que ces seigneurs portaient souvent le nom de dauphin comme second prénom. Et puis ça va devenir, dans les années 1280-82, ça devient un véritable titre, le titre de dauphin. Et jusqu'au traité de Roman, le 30 mars 1849, par lequel il cède le Dauphiné à Philippe VI, roi de France, eh bien ce titre va être porté par les héritiers du Dauphiné, si vous voulez. Alors, ce traité de Roman prévoit que le territoire devienne l'apanage du fils aîné du roi, qui portera donc le titre de Dauphin. Le Dauphin doit remplir deux conditions, être l'héritier présumé du trône, mais aussi descendre évidemment directement du roi. Ce qui fait que, évidemment, certains successeurs désignés n'ont pas le titre de dauphin. Par exemple, François Ier de la lignée des Valois-Angoulême succède au Valois-Orléans Louis XII, mais pour autant, il n'est pas dauphin de France. Hein, il n'est que le successeur de Louis XII. Alors, ce terme de dauphin, il sera ensuite maintenu jusqu'à la fin de la monarchie en France. Le fils aîné et successeur désigné du roi portera ce vieux titre médiéval lié au comte d'Albon et de Viennois. Bonjour Hélène Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous vous proposons une émission consacrée au licenciement. Comment rebondir? Quels sont vos droits? Comment sortir avec panache de son entreprise? Comment se donner finalement une nouvelle chance? Eh bien, que pouvez-vous aussi négocier avec votre employeur? J'attends vos questions, les réponses des experts, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. J'arrive, j'ai du mal là aujourd'hui.
Oui, vous allez vous mettre en route là après ce grand week-end.
Vous avez raison.
Merci beaucoup à toute l'équipe. Alors, Lorena, à Marion, à Déborah, à Mathilde, à Pierre-Emmanuel et bien sûr au chef d'orchestre, à Nicolas. Je vous signale que demain soir, c'est pas ce soir, hein, demain soir mercredi aura lieu un numéro spécial de l'Ombre d'un doute consacré au Château de la Loire.